Midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Europe 1. Bonjour Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h dans un instant votre journal et dès 13h on fait bouger la France. On s'intéresse aujourd'hui à toutes les applications qui permettent de consommer responsable et vous verrez que les Français rivalisent d'imagination et d'ingéniosité. On vous attend à tout à l'heure, 39-21.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
7 ans que les syndicats de l'éducation n'avaient plus appelé tous ensemble à la grève. C'est le cas aujourd'hui, lundi unitaire. Manifestation prévue dans toutes les grandes villes contre les suppressions de postes annoncées dans les collèges et les lycées. Nous irons à Lyon voir si le mouvement est suivi alors que le ministère annonce, lui, 10% seulement de grévistes. Faut-il s'attendre à une nouvelle envolée des prix à la pompe? Pour harmoniser l'offre et la demande, l'Arabie Saoudite va réduire sa production de pétrole. Cela veut-il dire que faire le plein va nous coûter encore plus cher? Nous poserons la question à spécialiste dans ce journal à 5 jours maintenant de la mobilisation des gilets jaunes. À la une aussi, les notes de frais et les salaires des cadres de force ouvrière. Le syndicat a-t-il payé et dépensé sans compter? C'est ce qu'on va essayer de savoir avec Olivier Samin. Gros plan aussi sur la sécheresse. 75 départements réclament d'être indemnisés en calamités agricoles, information Europe 1. Et puis les incendies dévastateurs en Californie, déjà près de 30 morts et les flammes qui continuent leur course en ce moment même. La baston aussi, jusqu'au bout pour la gagne dans la route du Rhum. Finish spectaculaire cette nuit entre Gabart et Joyon. Ce dernier l'emporte et c'est une première pour lui. La météo, Elena Morna, lentement mais sûrement ça s'améliore.
Oui, on va progressivement passer du gris et humide au gris brouillard et sec, puis des éclaircies. Alors encore pluvieux cet après-midi entre l'Aquitaine et les Ardennes, des pluies soutenues sur les Cévennes, plus clair et doux ailleurs et puis dans le nord-est, là où on souffre de la sécheresse, la pluie arrive demain.
Merci Elena, à tout à l'heure juste avant 13h pour une météo complète sur Europe 1.
Europe 1.
Vos enfants ont-ils eu cours ce matin? Pas partout, car aujourd'hui c'est jour de grève dans l'éducation nationale et ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus eu d'appel de tous les syndicats, une première même depuis 2011. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Spécialiste éducation d'Europe 1, en cause la suppression de postes annoncée dans les collèges et les lycées.
Oui, et les premiers chiffres de participation viennent de tomber. Il y a 14% de profs en grève en collège-lycée selon le ministère, mais la mobilisation est beaucoup plus forte selon le SNES, principal syndicat du secondaire, qui comptabilise près d'un prof sur deux en grève aujourd'hui. En maternelle et en primaire, 9% de grévistes, selon le comptage de la rue de Grenelle. C'est plutôt un enseignant sur quatre pour les syndicats. Alors des profs qui protestent essentiellement contre le budget 2019, qui va être présenté demain en plénière à l'Assemblée nationale. Il prévoit 3200 suppressions de postes de profs au total, si on additionne le public et le privé, et moins 400 postes dans l'administration. Pour les syndicats, c'est un signe, un renversement de la tendance. Ils ont encore le douloureux souvenir des moins 80 000 postes pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, plus 60 000 sous François Hollande. Et cette année, pour eux, ça repart à la baisse alors que le vivier de jeunes profs commençait tout juste à se reconstituer. Le ministre, lui, estime que toujours plus de moyens, ça n'est pas la solution, qui passe davantage par un redéploiement des ressources. Alors il y aura pourtant des créations de postes au primaire, mais ce ne sera pas suffisant, selon les syndicats, pour éponger les besoins créés par les CP et les CE1 dédoublés et l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire.
Alors, suivi ou pas, on part tout de suite pour voir l'ampleur de la mobilisation d'aujourd'hui en région lyonnaise. Retrouvez le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Beaujon. Est-ce que chez vous, les enseignants ont répondu présent à l'appel ?
Eh bien, écoutez, c'est une mobilisation, je dirais, assez moyenne, hein, autour de 2000 enseignants dans les rues de Lyon depuis 10h ce matin. Au cri de « Macron, t'es foutu, les profs sont dans la rue », le cortège s'est dirigé vers le rectorat, où il s'est immobilisé depuis quelques minutes. Beaucoup de profs qui, comme Brigitte, n'avaient pas manifesté depuis longtemps. Mais cette fois, dit-elle, la coupe est pleine. Elle est directrice dans une école de dessin en banlieue de Lyon.
Ras-le-bol général, ras-le-bol de nos salaires, ras-le-bol par rapport aux moyens, instauration des classes à 12 avec une pression pas possible, des collègues qui en peuvent plus. On met en place des belles choses, on promet des belles choses et puis il n'y a rien qui suit derrière.
Pourtant Jean-Michel Blanquer semble donner la priorité.
C'est joli la vitrine, c'est joli ce qu'on est sur le papier, mais après il faut aller voir sur le terrain. Quoi. Derrière, s'il n'y a pas les moyens humains, on fait comment ?
Alors ce qu'on peut remarquer ce matin, c'est qu'aux côtés des profs, eh bien, il y a pas mal de lycéens, hein, forte présence de la jeunesse. Et parmi ces lycéens, il y a Héloïse, élève de première, et révoltée par les projets de réforme des options au lycée de Jean-Michel Blanquer.
En gros, la liberté, elle est donnée au chef d'établissement et du coup, ils choisissent de supprimer en priorité tous les postes des professeurs qui sont pas forcément pas à temps plein. Du coup, c'est toutes les options artistiques, genre l'art plastique, la musique, l'histoire des arts qui vont être supprimées alors que c'est grâce à ça qu'on découvre, on explore. Et si j'ai plus le droit de le faire, autant pas venir à l'école.
Ce gouvernement a rien compris.
Exactement, vraiment rien compris du tout.
Voilà, des jeunes assez nombreux et assez bruyants, au soutien de leurs enseignants aujourd'hui. Alors on ne sait pas si ce sera durable, mais en tout cas c'est rarement un très bon signe pour un gouvernement.
Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1. Et des manifestations, il y en aura dans la plupart des grandes villes. La principale s'élancera cet après-midi à 14h en direction du ministère de l'Éducation nationale.
Il est 12h35 sur Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
L'Arabie Saoudite ferme le robinet. Le Royaume a décidé de montrer en quelque sorte l'exemple aux autres pays de l'OPEP et de réduire sa production de pétrole. Dès le mois prochain, ce sont donc 500 000 barils de moins qui seront exportés de Riyad. Objectif, équilibrer le marché. Alors, cela va-t-il avoir, oui ou non, un effet à la pompe? Bonjour Patrice Geoffron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes professeur d'économie à Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Certains pays, manifestement, produisent trop et en face, évidemment, il y a une baisse de la demande. Financièrement parlant, l'OPEP a tout intérêt à réduire le nombre de barils si elle ne veut pas voir le cours du pétrole chuter trop bas?
Alors oui, c'est un mécanisme classique et d'ailleurs l'OPEP a été constitué pour ça, mais on observe depuis quelques années que ce mécanisme de régulation est assez compliqué. L'OPEP n'était pas parvenu en 2014 à empêcher l'effondrement du prix du pétrole, hein, qui est descendu même aux alentours de $30 le baril. Et donc pour faire remonter les cours, l'OPEP et l'Arabie Saoudite en tête a essayé de se coaliser avec d'autres producteurs, notamment la Russie. Et c'est ce qui a permis de faire remonter le prix du baril aux alentours de $80. En 2018, mais avec une difficulté qui est que notamment il y a un grand acteur très très présent sur ce marché, au premier rang mondial pratiquement, qui s'appelle les États-Unis, qui produit beaucoup. Et puis par ailleurs, Donald Trump, via sa politique internationale, en particulier vis-à-vis de l'Iran, perturbe également le marché, d'où la grande indétermination à l'heure actuelle.
Ouais, on voit que les pays sont en train de réfléchir à de nouvelles stratégies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer, qu'est-ce qu'ils peuvent inventer pour que les prix fassent peut-être un peu moins le yo-yo et qu'ils soient aussi un peu moins indépendants.
Alors ce qu'ils peuvent inventer, de fait pas grand-chose, hein, c'est de parvenir à déterminer des volumes de production et surtout à les tenir. Et donc c'est là que c'est assez compliqué parce que vous avez tout de même beaucoup de pays à la fois dans l'OPEP et dans ce qu'on appelle les NOPEP, c'est-à-dire les membres de cet accord qui n'appartiennent pas à l'OPEP et encore une fois la Russie en tête. Et donc tous ces acteurs n'ont pas forcément des intérêts convergents. Et puis par ailleurs, si on veut parler directement, les États-Unis contribuent à mettre le bazar parce que d'un côté, Donald Trump annonce des sanctions à l'égard de l'Iran et puis les assouplit de telle manière que l'Iran reste à l'heure actuelle et sans doute durablement plus présent sur le marché qu'il devait l'être, ce qui complique encore une fois la tâche de régulation par l'OPEP et la Russie.
Concrètement, Patrice Geoffron, est-ce qu'il va falloir s'habituer à avoir le prix à la pompe, faire le yo-yo justement, compte tenu de ce qui est en train de se passer?
Bah écoutez, oui, c'est l'habitude de toute façon dans laquelle on est depuis quelques dizaines d'années. Oui. Et si on regarde les choses simplement sur 10 ans, voilà, on a un point haut à peu près à $150 le baril et un point bas quelque part sous les $30. Donc c'est le monde dans lequel nous vivons. Tout ça est un peu amorti par l'effet des taxes qui certes se surajoutent, mais donc qui amortissent l'effet de yo-yo en partie. Et la difficulté dans laquelle nous sommes, tout particulièrement en France, c'est que parallèlement, la montée des taxes, de la fiscalité sur les produits pétroliers, de la fiscalité carbone en particulier, s'ajoute à ce phénomène, d'où les tensions que nous observons depuis quelques semaines.
Merci beaucoup Patrice Geoffron de nous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair les cours du pétrole qui effectivement ont chuté de 20% en un mois après avoir culminé depuis début octobre à leur plus haut niveau depuis 4 ans. Les prix du plein d'essence qui grimpent, c'est aussi, hein, vous le savez, la raison pour laquelle ce samedi des milliers de gilets jaunes vont manifester à travers tout le pays Parmi eux se trouvent les marins pêcheurs, même s'ils bénéficient d'un gasoil détaxé. Ils ont, malgré tout, depuis le début de l'année, perçu eux aussi les effets de la flambée du baril. Pour remplir les cuves de leur bateau, c'est de plus en plus cher, 70% de hausse, comme l'a constaté sur l'île d'Oléron, François Coulon.
Une centaine de chalutiers à la Cotinière et sur les quais un seul sujet obsessionnel, le litre de gazole détaxé, plus 70% en un an et demi. Il culmine à 56 centimes d'euros. Richard Montil, patron du Medeluc.
On consomme 1700 litres par jour. Le gazole qui prend 20 centimes, c'est énorme. C'est 70 000 euros par an. Et c'est des sous en moins sur la paye des matelots parce qu'à la pêche, on est payé à la part.
Vous allez mettre vos gilets jaunes, vous aussi ?
Oui, je suivrai le mouvement. On est tous touchés, tous. On ne peut pas rester inerte. C'est très inquiétant.
Les matelots perdent actuellement 25% de leur salaire. La pêche elle-même accuse sérieusement le coup après 4 mois sans langoustine ou presque. Résultat, les plus gros chalutiers sont en souffrance. Éric Renault, patron du Marine Noé.
Ça consomme un semi-remorque de gasoil par quinzaine. Passer de 8 000 euros à 15 000 euros en charge fixe, c'est phénoménal. On attaque dans le dur. À la Cotinière, on a des bateaux depuis 3 mois qui sont dans le rouge. Ils sont à la merci du premier pépin qui va arriver, pépin mécanique.
Lors de la dernière crise de la pêche en 2008, le litre de gazole détaxé s'était envolé à 70 centimes d'euros. On n'en est pas si loin, soupire Eric. Sur l'île de Léron, François Coulon, Europe.
Il est 12h40.
Ce matin, sur cette question des carburants, une réunion s'est tenue à Matignon autour d'Edouard Philippe.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, les notes de frais salés de Force ouvrière et les incendies en Californie, bilan terrible, déjà une trentaine de morts. À tout de suite.
Midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1. L'armée.
Il est 12h43 sur Europe 1, la suite du journal Raphaël Duchemin.
Décidément, ça va mal et ça dure chez Force ouvrière. Après le départ de Pascal Pavageau, le syndicat voit ce matin les notes de frais de ses dirigeants. C'est allé avec Force Détail dans le Parisien. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour Raphaël.
Il y en a pour la bagatelle de 388 000 euros. On ne parle là que de l'année 2017. Or justement, l'année dernière, la centrale a subi 635 000 euros de pertes. Ça fait désordre.
Oui, 388 000 euros de notes de frais répartis entre 13 dirigeants de FO, les 13 membres du bureau confédéral. Ça fait beaucoup. Ça fait presque 30 000 euros en moyenne par personne l'année dernière. Alors c'est vrai, il faut payer des déplacements, beaucoup de billets d'avion notamment. Il y a aussi des frais d'hébergement pour les dirigeants qui n'habitent pas à Paris. Ça, c'est pas répréhensible. Ça fait partie des contraintes de fonctionnement des grandes organisations, syndicats ou autres. Mais ce qui étonne et ce qui détonne, c'est le montant très élevé des notes de frais. Le record en 2017, si l'on en croit le Parisien, c'était Pascal Pavageau. Il n'était pas encore secrétaire général, mais sa note de frais a atteint cette année-là 50 800 euros.
Et ce n'est pas tout, les salaires aussi atteignent des niveaux très élevés.
Ben oui, Jean-Claude Mailly par exemple, toujours d'après le Parisien, un peu plus de 8 000 euros bruts par mois en incluant les primes. D'autres membres du bureau confédéral entre 6 000 et 7 000 euros.
Après l'affaire des fichiers qui a coûté son poste, on le rappelle, à Pascal Pavageau, Force ouvrière est donc de nouveau, on peut le dire Olivier, sur la sellette. Il n'y aurait pas que quelques règlements de compte derrière tout ça ?
Oh, c'est probable, alors que l'élection du nouveau secrétaire général va avoir lieu la semaine prochaine et que derrière les trois candidats en lice, il y a des fédérations et des structures départementales qui jouent gros, y compris en termes financiers. Faut avoir à l'esprit le fait qu'avant même le scandale des fichiers, la crise qui secoue FO est partie d'un audit que Pascal Pavageau a commandé sitôt après son élection. Un audit pour faire la transparence sur la répartition de la manne au sein du syndicat, et ça, apparemment, ça n'a pas plu à tout le monde.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et puisqu'on parle argent, justement, Benjamin Griveaux n'a pas apprécié d'être pointé du doigt. Le porte-parole du gouvernement a été épinglé par l'ancien socialiste René Dosière, connu pour traquer les dépassements budgétaires et autres frais injustifiés, et aussi dans l'émission Capital. Or, il a relevé que le salaire moyen de 5 des conseillers du secrétaire d'État avait quasiment été multiplié par 2 depuis le mois de janvier. L'intéressé lui dément et contre-attaque ce matin sur Europe 1.
C'est faux. Il y a des gens qui le lisent manifestement avec un parti pris. Et donc moi, je vais demander un droit de réponse par voie d'avocat. Parce que j'en ai assez que la classe politique soit en permanence victime d'un tir au pigeon. Quelle est la réalité des chiffres ? Quelle est la réalité des chiffres ? On m'accuse d'avoir, c'était une augmentation non pas de 49%, mais de 86%. Donc c'est rocambolesque, c'est 27%. Pourquoi c'est 27%? Ça avait été calculé avec 4 conseillers pour mon prédécesseur quand il en avait 5, et moi j'ai évidemment 5 conseillers comme m'autorise le plafond fixé par le Premier ministre. C'est donc 27% d'augmentation. Pourquoi ? Parce que mes conseillers sont plus expérimentés sont plus âgés que les conseillers qui étaient là auparavant. Est-ce que je suis très au-dessus de la moyenne ? La moyenne des cabinets ministériels, je suis 2% au-dessus. Très exactement, 2,2% au-dessus.
Benjamin Griveaux, ce matin au micro Europe 1 d'Audrey Crespo-Mara.
Il est 12h46, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Les départements jusqu'à ce soir pour réclamer une indemnisation au titre des calamités agricoles. Avec la sécheresse qui a sévi cet été et au début de l'automne, ils sont nombreux à faire la demande. 75 au total, chiffre Europe 1, ont déjà rempli le dossier. C'est une première étape car après, la balle est dans le camp des agriculteurs, Jean-Jacques Herry.
Effectivement, parce qu'une fois la situation de calamité reconnue au niveau départemental, commence pour les exploitants la phase de déclaration individuelle. Elle a été simplifiée. On remplit un formulaire sur le site internet du ministère de l'Agriculture. Ça s'appelle Télécalam. L'agriculteur y fait connaître ses pertes et la situation de son exploitation. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont dans la crainte parce que les critères pour bénéficier d'indemnisation sont très techniques et surtout très stricts. Il faut justifier de 30% de pertes et d'un chiffre d'affaires global affecté de 13% pour chaque exploitation. Bref, pas évident de rentrer dans les cases, selon Emmanuel Ebichère, président de la FDSEA Haute-Saône, au micro de Charlotte Béchler.
C'est pas un des deux. On peut très bien avoir 30% sur le premier critère et puis ne pas atteindre 13%. Si on n'atteint pas les 13%, c'est fini. L'exploitation, elle tombe pas dans le système des calamités. Une année comme cette année, au vu de ce qu'on connaît depuis le mois de juin, si le département de la Haute-Saône n'est pas reconnu en calamité agricole, les exploitants ne le comprendraient pas.
Parce que ce que disent les agriculteurs, c'est qu'il y a urgence. Avec 30 à 60% de pertes, il y a très peu d'herbe et de fourrage pour nourrir le bétail et la crainte d'une pénurie pour les mois à venir. Ils attendent donc avec impatience des premières indemnisations qui devraient tomber courant décembre.
Merci Jean-Jacques. La sécheresse et en Californie, les incendies qui continuent leur course macabre. Au moins une trentaine de personnes ont déjà trouvé la mort et ce sont des dizaines de milliers d'hectares qui ont été ravagés par les flammes. Les évacuations, elles continuent. 250 000 personnes ont déjà reçu l'ordre de quitter leur domicile car les vents continuent de souffler. Claudia Bertram, ce sont déjà les incendies dans cet état les plus meurtriers depuis 1933.
Oui, les flammes progressent l'équivalent de 3 terrains de foot chaque minute. Rebecca Hackett fait partie des personnes qui ont dû fuir leur maison en urgence pour échapper au Woosley Fire, l'incendie le plus au sud de la Californie. Et ce que vous allez entendre, c'est elle qui se filme au milieu des flammes dans sa voiture. La conductrice s'en réchappe in extremis et le raconte à la télévision américaine quelques minutes plus tard.
J'étais vraiment terrifiée, j'étais choquée. J'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que je m'en sortirais pas, mais j'ai continué à conduire parce que je ne savais pas quoi faire d'autre.
Deux incendies gigantesques qui portent déjà à une trentaine le nombre de victimes. Et le bilan pourrait s'alourdir. 228 personnes sont toujours portées et disparues. Et les vents violents de Santa Ana, des rafales d'un air chaud, continuent d'assécher l'atmosphère et pourraient aggraver la situation dans les heures à venir. Les pompiers estiment déjà qu'il faudra au moins 3 semaines pour venir à bout des flammes.
Merci Claudia.
Il est 12h49 sur Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Dernière ligne droite dans le procès de Georges Tron et de Brigitte Gruel. C'est la 4e semaine de ce procès pour le maire de Draveil et son ancienne adjointe qui comparaissent pour viol en réunion et agression sexuelle. Ce sont eux qui vont être entendus dans les 48 heures qui viennent, avant le verdict prévu jeudi. Et ce matin, Guillaume Bier, audition plutôt musclée pour Brigitte Gruel.
Ah oui, le président n'a pas ménagé ce matin cette femme de 61 ans qui s'accroche à la barre et répond d'une petite voix. Les faits qui lui sont reprochés, je les conteste, souffle-t-elle. Ces scènes n'ont jamais existé, souligne celle qui parle de complot et de machination. Alors d'emblée, le président l'interroge sur de surprenantes attestations rédigées contre les plaignantes 1 à 2 ans avant que l'affaire n'éclate et que Brigitte Gruel avait compilées chez elle. Dans quel intérêt ces attestations, demande le président. Je ne sais pas, il faudrait demander à Monsieur Tron. Ah, mais rassurez-vous, c'est prévu, coupe le magistrat qui enchaîne. Vous ne vous posez pas de questions, est-ce que vous aviez quelque chose à craindre ? Non, rien à craindre, répond Brigitte Gruel, manifestement mal à l'aise. Quand on l'interroge sur la sexualité de Georges Tron, sur les 6 femmes au moins qui évoquent des relations intimes avec le maire de Draveil, son ancienne adjointe ne sait pas, mais elle soutient que ce que disent ces femmes est faux et qu'elle n'a jamais participé à ces scènes. Alors le président d'assises se fait plus sentencieux. Vous avez parfaitement mesuré l'enjeu du caractère crédible de vos dénégations. Dans cette affaire, vous êtes dans le même bateau et il lui tend une perche. Si vous savez quelque chose, il faut nous l'indiquer. Mais Brigitte Gruel ne lâche rien, répétant qu'elle vit un enfer depuis 7 ans. Conclusion grinçante du président, enfer qui n'était pas prévisible malgré les attestations.
Guillaume Bié aux assises de Seine-Saint-Denis pour Europe 1.
Il est 12h51.
Europe 1.
Dans un instant, la route du Rhum, finale exceptionnelle cette nuit et victoire de Francis Joyon. À tout de suite.
Il est 12h54 sur Europe 1, la suite du journal Raphaël Duchemin.
Que faites-vous en 7 minutes et 8 secondes? Eh bien, Francis Joyon, lui, ça lui suffit pour remporter une course. Le loup de mer qui emmagasine les records n'avait pas encore accroché le trophée de la Route du Rhum à son palmarès. C'est chose faite depuis cette nuit et avec la manière, puisque jusqu'au bout, Gabart et lui se sont tirés la bourre. Mais l'expérience, Corinne Boulou, a payé.
Ah oui, c'est vrai qu'à 62 ans, Francis Joyon a de la ressource, un mental à toute épreuve et un physique de baroudeur. Ayant compris que François Gabart ne pouvait exploiter à 100% son maxi trimaran blessé, le Breton a maintenu la pression et c'est dans le tour de la Guadeloupe cette nuit qu'il a réussi à passer devant son cadet. Image saisissante de deux géants des mers bord à bord dans la baie de Pointe-à-Pitre après 6000 km de traversée en solitaire. 7 minutes sépareront les duettistes et Francis Joyon sort vainqueur de ce mano à mano caribéen.
Ben, je m'en suis rendu compte une minute 30 avant l'arrivée. J'avais l'impression de rééditer un petit peu l'arrivée de Mike Birch, pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
Et Francis Joyon viendra saluer ensuite François Gabart, amarré juste à côté. Un François Gabart qui aurait pu abandonner deux jours après le départ pour de sérieuses avaries, mais qui a décidé de poursuivre vaille que vaille, frôlant la victoire.
C'est marrant parce que depuis des mois, quand je préparais cette Route du Rhum, je rêvais qu'on arrive à deux bateaux. Et j'imaginais en arrivant les deux bateaux qui virent en même temps et le dernier bord en volant. Au final, ça s'est pas fait en volant, mais ça s'est quand même fait avec deux bateaux côte à côte. Et c'était top. Alors évidemment, je suis derrière, donc c'est moins drôle, mais peut-être que demain, j'aurai la gueule de bois, j'en sais rien, mais là, je trouve que c'est chouette, quoi.
Et donc, après les 98 secondes de la première édition, eh bien, c'est une poignée de minutes qui vont s'inscrire désormais dans la légende du Rhum.
Merci Corinne Boulou pour Europe 1. Notez que le club de Bordeaux-Bègles se sépare, c'est officiel depuis ce midi, de son manager Rory Tick. Décision prise selon l'UBB d'un commun accord. C'est désormais Joe Worsley qui entraîne la défense qui va assurer l'intérim.
Il est 12h56.
Restez avec nous dans un instant. Gros plan sur nos applis. Elles sont de plus en plus nombreuses à faire le travail pour nous aider à consommer responsable au supermarché, mais pas seulement quand on achète des habits aussi. À tout de suite.
Midi 30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe 1.
C'est l'heure de la météo.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Et les pluies faiblissent cet après-midi, Elena Morna.
Et elles s'étendent de l'Aquitaine au Poitou-Charentes jusqu'en Île-de-France et aux Ardennes. Oui, elles faiblissent dans la partie nord, elles sont plus régulières, c'est vrai, sur l'Aquitaine. Sur le nord-ouest, des éclaircies et des averses, surtout sur le littoral. À l'avant, un ciel de plus en plus nuageux, quelques averses orageuses entre le Massif central et la Lorraine. Un beau contraste sur les Pyrénées centrales et orientales jusqu'au Lyonnais, Savoie, Franche-Comté et Alsace sous un ciel presque bleu et toujours des pluies soutenues et un ciel nuageux autour de la Méditerranée, les pluies soutenues. C'est sur les Cévennes. Les températures, 12 sous le soleil, 19 à 23 degrés de Metz à Ajaccio en passant par Toulouse, 11 à 18 degrés ailleurs. Les pluies nous quittent par l'est tranquillement, doucement demain.
Merci Elena.